Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Christina Silvero au micro. Cette semaine dans Escale, la situation critique des hommes et des garçons victimes des violences sexuelles dans le cadre des conflits armés. Une quarantaine de femmes sont violées chaque jour au sud Kivu dans le contexte du conflit en cours en République démocratique du Congo. Entre 50 000 et 64 000 femmes déplacées internes ont subi des violences sexuelles par les combattants armés au Sierra Leone. Entre 20 et 50 000 femmes auraient été violées pendant la guerre de Bosnie au début des années 90. Et des centaines de milliers de femmes ont été violées pendant le génocide au Rwanda. Les violences sexuelles à l'encontre des femmes lors des conflits armés sont un phénomène connu et bien documenté. Mais ce fléau se décline aussi au masculin. Les hommes et les garçons font en effet l'objet de violences sexuelles en temps de guerre. Seulement, leurs cas ne sont pas aussi bien documentés et les réponses aux victimes sont moins adaptées. Pour tenter d'évaluer la situation et les besoins des victimes, la mission permanente des États-Unis et le bureau de la représentante spéciale du secrétaire général sur les violences sexuelles et les conflits armés ont co-organisé un atelier à New York auquel ont participé des victimes, travailleurs de santé, chercheurs, juristes et membres de la société civile. Laura Davies, chargée de programme au sein du bureau de la représentante spéciale, éclaire cette triste réalité et revient sur l'atelier.
Avec le soutien de la mission des États-Unis auprès de l'ONU, on a eu cette réunion avec des experts extrêmement divers, des psychologistes, des médecins, des chercheurs aux États-Unis et puis des gens qui travaillent en Asie, en Afrique, avec les réfugiés et les populations en asile, de toutes sortes, des hommes, des garçons qui ont subi les violences sexuelles en situation de conflit et aussi en pays qui ne sont pas en conflit. Le but de l'atelier était de lier ces experts dans un réseau et lancer ce réseau pour lier les informations et les expertises qui existent sur le problème parce que, en fait, c'est bien connu que les conflits armés et les violences sexuelles sont liés à la violence contre les femmes et les filles. Mais pour les hommes et les garçons, on n'a pas avancé de la même manière. On ne parle pas vraiment de la violence contre les hommes et les garçons. Et en situation de conflit, on n'a pas ignoré, mais on n'a pas ciblé les hommes et les garçons comme survivants. Et il y a un manque en ce qui concerne les fonds, les services et les informations.
Alors, est-ce que c'est un phénomène nouveau ?
Non, ce n'est pas un phénomène nouveau, mais pour nous, c'est assez nouveau de parler des stratégies et des services dont les hommes et les garçons ont besoin. En tant que les services qui sont disponibles déjà pour les femmes et les filles ne sont pas adaptés pour les besoins spécifiques que les hommes et les garçons nécessitent.
Le viol en tant qu'arme de guerre est donc une pratique qui date depuis longtemps contre les hommes et les garçons aussi ?
En fait, on manque de recherche sur la question de la violence sexuelle contre les hommes et les garçons en situation de conflit. On ne peut pas dire qu'on a vraiment des statistiques qui reflètent l'étendue du problème.
Donc en fait, l'atelier était axé sur la réponse au problème et essayer de...
Oui, du point de vue de la recherche, des services et aussi l'accès aux fonds parce qu'il existe beaucoup d'initiatives et des bourses pour les femmes, pour les filles qui n'existent pas pour les hommes et pour les garçons. Même si les garçons sont aussi des enfants, le problème de violence sexuelle contre les hommes et les garçons n'est pas vraiment une audience. Et la mission des États-Unis a pris un intérêt sur ce problème et on fait des initiatives pour lancer le débat et puis lancer les initiatives pour mieux comprendre et mieux servir ces populations.
Alors, comment est-ce que les hommes et les garçons se retrouvent à être victimes de violences sexuelles lors des conflits ?
Je dirais que ça dépend un peu sur la nature du conflit. Par exemple, les hommes et les garçons peuvent être des combattants qui sont soumis aux violences sexuelles en détention. Ou bien, juste comme civils, les hommes peuvent être pris par les groupes armés. Puis, dans ces situations, ce sont des civils vulnérables de la même façon que les femmes et les filles peuvent être ciblés. En Bosnie, par exemple, on a eu le témoignage d'un survivant du conflit en Yougoslavie. Et pour les hommes, il y avait aussi des tortures, y compris des tortures sexuelles, en situation de détention. Donc, ça arrive pour les hommes comme combattants, mais aussi comme civils.
Ils appelaient un par un. Ils ont dit, toi, passe devant, déshabille-toi. Ils veulent me frapper à toile ou quoi. Ils m'ont dit de prendre la position où le musulman prie. Je ne voulais vraiment pas parce que j'avais déjà une idée dans ma tête. Trois soldats sont venus m'a touché ici, un autre ici. Ils m'ont forcé, j'étais déjà à poil, je me suis plié. Bon, ils allaient faire que nous étions des femmes, hein. Ils allaient coucher avec nous. C'est que j'avais compris et on était à l'impossibilité de refuser. C'était terrible. La douleur que j'ai ressenti ce jour-là, je ne sais pas si c'était atroce. Les gardes étaient là en train d'applaudir, de rire, de chanter. Quand il a fini, un autre est venu, et puis et j'étais KO. Parce que la première, je me tenais comme ça, mais après le deuxième, troisième, je n'avais plus de force. Mes mains tremblaient et mes pieds tremblaient. Je suis tombé vraiment évanoui et ils ont pris maintenant un autre.
Quels sont les effets des violences sexuelles à l'encontre des hommes et des garçons ?
Les effets pour les hommes et les garçons sont similaires mais aussi un peu différents aux effets pour les femmes et les filles. Donc pour les survivants en général, on peut dire l'humiliation, c'est un effet qui affecte les hommes, les femmes, les filles, les garçons. Aussi les effets médicaux sont un peu divers mais quand même c'est clair, les viols ont des effets physiques. Pour les hommes et les garçons, il y a aussi un problème psychologique qui se présente souvent en ce qui concerne l'identité sexuelle du survivant et le contexte. Normalement, si on parle des contextes, par exemple en Afrique, c'est difficile pour les hommes de parler d'être violés. Et il y a un problème social, les normes sociales ne soutiennent pas vraiment une discussion sur cette expérience parce que c'est un contexte souvent où les hommes ont une crainte de l'homophobie qui se présente dans ces sociétés. Donc,
ça peut même être quelque chose qui va à l'encontre de la loi.
Exactement. Par exemple, pour les réfugiés en Ouganda, par exemple, les lois de ce pays ne sont pas sensibles et un homme qui est victime a aussi peur de parler du crime et d'accès des services psychosociaux parce que la sodomie est illégale dans ce pays. C'est extrêmement complexe, c'est un problème pour eux.
Ils risquent la poursuite en fait.
Oui, et puis pour cette raison, il y a des services dédiés pour les hommes en asile dans ces pays qui sont sensibles à ce problème. Et les services pour les femmes qui sont un peu séparés. Et les services pour les réfugiés, par exemple, au Uganda, on avait des participants à l'atelier de l'université d'un projet qui a été lancé là-bas. Et ça reflète le besoin de services extrêmement raffinés qui ciblent le problème pour les populations dans un contexte qui reflète le pays d'asile, le conflit, le genre du survivant. C'est un projet extrêmement impressionnant en ce qui concerne l'expertise, mais aussi l'adaptabilité aux questions. Donc, ce n'est pas juste un problème de statistiques ou de compréhension, aussi c'est un problème de service qui est extrêmement complexe. On parle d'une population, par exemple, qui a des difficultés à travailler, donc on a besoin aussi de soutien économique.
On a souvent entendu, justement, l'histoire de femmes ou de filles qui, quand elles rentrent, après avoir été violées, sont soit rejetées par le village, rejetées par leur mari, par leur famille. Est-ce que ce genre de phénomène de rejet est aussi applicable aux hommes et aux garçons?
Pour les hommes, ça arrive que les femmes leur abandonnent pour des raisons liées aux effets d'une violence sexuelle. Mais c'est difficile de répondre à ces questions parce qu'en fait, souvent les hommes ne parlent pas de l'expérience. Donc ça serait difficile de dire que c'est à cause du viol ou d'une expérience comme ça que leur famille leur a abandonné. Et ça arrive que même un homme et sa femme sont tous les deux violés. Donc c'est un problème en famille, c'est extrêmement complexe. C'est extrêmement difficile de dire que c'est à cause d'une torture sexuelle que sa femme est partie en fait.
J'ai saigné, je ne pouvais même pas marcher comme je marchais ici. J'ai saigné vraiment comme si la nuit c'était justement ouverte. Même quand je fuis la forêt par temps, c'est que j'avais du sang qui saignait. Du sang, même si vous ne portez pas la toilette. Je me suis dit, mais moi ma vie, ce n'était pas pareil. Au contraire, tout cela, mon frère et ma soeur me haïssaient. Hein? Ils disaient, parce que là où j'étais, ça smell bad, le sang. Non, on ne peut pas vivre comme ça, tu vas nous donner des maladies. Chacun va chercher sa vie.
Pourquoi est-ce qu'un homme ou un garçon se retrouve en tant que cible? Ça sert à quoi de violer un homme ou un garçon dans un conflit?
On n'a pas vraiment abordé la question en ce qui concerne les hommes et les garçons comme cibles en situation de conflit. Je dirais juste que ça peut arriver parce qu'un homme est un combattant, un homme ou un garçon est un combattant, donc ça sert à humilier l'opposition, une opposition politique ou un combattant, ça arrive. Mais aussi, les hommes et les garçons peuvent être ciblés par les groupes armés juste comme civils. Par exemple, on a eu le témoignage d'un homme qui a été pris par un groupe armé parce qu'il était médecin. Ils avaient besoin de quelqu'un pour guérir les combattants. Donc, le fait qu'il ait été violé dans la période quand il a été pris par ce groupe, c'était un aspect de son expérience du conflit.
C'est une façon de le soumettre pour qu'il participe de la façon dont il voulait.
Oui, mais dans ce contexte-là, il n'était pas un combattant. Il ne faisait pas partie des forces armées. Aussi, ils ont violé sa femme devant lui, ce qui est une expérience qu'on a déjà connaissance. Et les effets de cette expérience pour lui, c'était aussi difficile parce que le viol de sa femme, c'est une humiliation. Son viol, c'est une humiliation, mais c'est aussi une humiliation en secret. Et c'était un civil. C'est difficile d'imaginer une histoire plus terrible que ça, en fait.
Il parlait beaucoup plus du viol de ma fille que de mon propre cas. J'ai été torturé, j'ai été violé. Mais il croit que le viol n'est pas fait pour les hommes. C'est ce que j'ai pu observer. Je connais la criminologie et ce qui constitue un viol. Mais je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas suffisamment de connaissances que cela peut être fait aux hommes aussi. Lorsque vous expliquez ce problème, les gens ne vous écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Ils sont indifférents. J'ai eu la malchance d'être interrogé par une personne chargée de la protection qui était de sexe féminin, qui était incapable de comprendre que j'étais victime d'un viol. Et cela crée simplement un nouveau traumatisme. Je le vis tous les jours. Quand vous dites « j'ai été persécuté, j'ai subi ça dans mon pays », ils répondent « mais vous êtes un homme, vous ne pouvez pas être violé ». Alors c'est là que ça s'arrête.
Alors, quelles sont, d'après l'atelier, les prochaines étapes à suivre pour justement avancer cette question et cette problématique?
Les participants ont identifié des questions pour les recherches. On avait des chercheurs de diverses universités ici aux États-Unis qui ont touché à ces questions comme une question légale, mais quand même on a beaucoup plus de recherches à faire juste pour savoir l'étendue du problème. Puis c'est pour les participants maintenant à avancer l'agenda. Ils ont rejeté quelques comparaisons entre les hommes et les femmes. Ils ont, par exemple, rejeté un langage comparatif et aussi ils ont rejeté un langage qui stigmatise les hommes parce que normalement on parle des hommes comme criminels. Donc pour les survivants, le langage qu'on utilise en ce moment-là...
Les condamne.
Ouais. Donc pour notre bureau, on va intégrer le problème pour les hommes et les garçons. Pour les participants de l'atelier, ils poursuivent un agenda beaucoup plus divers. Ensemble, on vise l'avenir, en fait, en ce qui concerne ce projet. Parce que pour nous, on a un mandat qui n'est pas basé sur le genre, mais qui est basé sur le conflit. Donc pour nous, le problème est plus clair. Pour les autres participants, c'est un champ qui est...
Qui ne fait que commencer.
Exactement.
C'est ainsi que se referme cette édition d'Escale consacrée cette semaine à la situation critique des hommes et des garçons victimes des violences sexuelles lors des conflits armés. Escale, le magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies, présenté cette semaine par Christina Silvero avec la collaboration de Rebecca Muzio. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence.